Tu t'es enfui ?
Tu dis ça comme si j'étais en prison.
C'était pas le cas ?
Non. Mais oui, je suis partie, sans dire à personne où j'allais.
Et pourquoi t'es partie ?
Dieu avait placé trop d'espoir en moi.
Bon, j'ai compris les bouts en français international, là, mais après ça, j'ai pas compris. Ça ressemble
c'est
à du yiddish. C'est ça,
voilà.
Hein? OK, parfait.
Voilà.
Tout à fait. C'est du yiddish dans une série allemande
oui.
qui est disponible en français. Rassure-toi, Patrick, parce que c'est pas tout le monde qui parle allemand comme Thérèse.
C'est alors... vrai, Thérèse parle allemand.
Allez, j'ai essayé de regarder le premier épisode en allemand. Puis à un moment donné, rendu à la fin, ben, vers la fin, je me suis dit non. Là,
c'est comme si mais c'était épuisant.
Ah, c'était dur, c'était difficile, c'était laborieux.
Mais la série n'est pas difficile, n'est pas laborieuse, rassurez-vous. C'est la série à voir sur Netflix en ce moment. Quatre épisodes,
oui.
Donc ça passe très vite. C'est l'histoire d'Esther Shapiro, 19 ans, qui est dans une communauté juive hassidique ultra-orthodoxe. Et elle décide de fuir sa communauté de Brooklyn pour se rendre à Berlin, d'où elle vient d'ailleurs, pour retrouver sa mère, mais surtout pour se libérer de tout ça, pour s'émanciper. Et le sujet a l'air grave, mais moi je dirais que c'est une série lumineuse dans sa noirceur parce que le sujet de départ, oui, est grave, mais le but, l'objectif est heureux, c'est réjouissant. Tu t'attaches à cette jeune femme-là dès le début et tu t'espères qu'elle va réussir. Alors, c'est ça pendant quatre épisodes. Bien sûr, il y a beaucoup des retours dans le temps où on retourne quand elle a rencontré son mari, son mariage et tout ça. Et on voit à quel point les traditions de cette communauté-là sont dures, hein, Thérèse. C'est pas facile.
Oh oui. Ah non, c'est pas facile. Elle suffoque dans cette communauté-là, elle. Et elle a décidé donc de quitter. Et c'est une communauté ultra-orthodoxe de Williamsburg. Et il y en a justement une communauté comme celle-là à Brooklyn. C'est vraiment il y a vraiment une communauté comme celle-là à Brooklyn. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a là matière à réflexion, Patrick, là. Des fois ça te choque, des fois mettons que tu passes par bien des gammes d'émotions. Ce que j'ai trouvé, moi, d'abord, les comédiens sont excellents. Il y a une distribution là-dedans. Là. Tu y crois du début à la fin. Il n'y a pas de fausses notes. La même chose pour la direction photo. C'est beau. Puis, évidemment, sur tout ce milieu, tout cet univers des Juifs hassidiques qu'on connaît pas. Et là, tout à coup, on entre dans cet univers-là. Et il y a peut-être des choses que vous comprenez ou que vous... Il y a plein de questions qui nous restent, évidemment. Mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et la comédienne principale, qui est Shira Haas, est une Israélienne. Écoute, elle est née... D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une fille dont je pense que c'est son grand-père qui est un rescapé de Auschwitz. Et vraiment, là, c'est une comédienne hallucinante. Elle a déjà gagné un prix, d'ailleurs. Elle a fait des films. Mais là, elle est toute jeune. Et c'est à voir absolument.
Elle est extraordinaire, cette actrice-là. Moi, là, je l'adore. Là. C'est ma nouvelle star. Et son personnage, évidemment, dans cette communauté-là, la femme se donne à son mari. Elle est là pour enfanter d'abord et avant tout. Alors, elle a dû sacrifier sa passion pour la musique, une grande passion qu'elle avait pour se consacrer à son mari. Et quand elle part pour Berlin, elle se lie d'amitié tout de suite avec un groupe d'étudiants d'un conservatoire de musique parce que c'est son premier rêve. Là. Elle, la première chose qu'elle veut faire dans la vie, là, c'est de faire de la musique. C'est ça qui lui a manqué le plus. Alors, on la suit là-dedans. Et moi, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Et j'ai fait une chronique là-dessus en début de semaine. Et j'arrête pas de recevoir des courriels de gens qui me remercient d'avoir suggéré ça parce que c'est vraiment une bonne série.
Les accros, si on regarde ça, est-ce qu'on va mieux comprendre, disons, la mentalité très renfermée des communautés hassidiques comme on les voit à Boisbriand, comme on les voit dans Outremont?
Ça, Patrick, c'est la question qui tue. Parce que est-ce qu'on va mieux comprendre? Je le sais pas.
Parce que j'imagine que les auteurs se sont basés là sur. Sur le réel, sur la dynamique dans ces
absolument,
communautés-là.
Absolument. C'est un livre, effectivement, mais sur le... Oui, parce qu'ils ont quelqu'un de cette communauté-là, un ancien de cette communauté-là, qui leur donne vraiment des détails. Moi, j'étais tellement fascinée que je suis allée voir le making-of après. Puis Parce que je me posais des questions, je me disais, même à un moment donné, j'ai pensé que c'était vraiment une communauté juive assidique. Je me suis dit, ça se peut pas, mais ils sont tous bons, comment ça se fait qu'ils joueraient de même? J'en revenais pas, parce que t'es tellement ancré là-dedans, t'es tellement... Est-ce qu'on comprend mieux? J'aimerais ça pouvoir répondre franchement à ta question. Oui, j'aimerais ça, mais non, j'ai pas mieux compris. J'ai été choquée à certains moments.
C'est ça, on la comprend surtout de vouloir quitter ça. Parce que quand on dit ultra-orthodoxe, Patrick, là, c'est vraiment, vraiment coupé du monde. Ils n'ont pas de téléphone intelligent, il n'y a pas d'Internet. Elle n'avait même pas le droit de chanter en public parce que c'est jugé indécent qu'une femme chante en public. Alors.
Ouais, si tu as de la misère avec les religions, là, ça va graffiner du premier au quatrième épisode, puis ça va saigner un petit peu. Mais en même temps, tu vois, on remarque, t'as l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont pris là-dedans, même son mari, à un moment
c'est
donné.
C'est ça, c'est nuancé. Parce que son mari, on le déteste pas.
C'est
on
pas
finit
noir
par,
et blanc.
Quasiment par le comprendre, là.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
OK, parlez-moi
mais j'aurais aimé ça comprendre mieux, mais c'est difficile. Okay. C'est très difficile.
Merci. Parlez-moi de Charles Tisser, là, qui trouve que c'est de plus en plus compliqué tourner des émissions de ce temps-là.
Hey, oui, écoute, deux fois en une semaine, son équipe, je dis ça, en équipe, sont quatre personnes, là, tu sais, un caméraman, un preneur de son, la réalisatrice et lui-même.
À deux mètres de distance.
C'est ça, bien sûr. Ils sont obligés de tourner en face de chez Charles Tisser parce qu'il est dans la catégorie 70 ans et plus. Il ne peut pas aller au studio. Et ils se font, ça fait deux fois qu'ils se font arrêter en se faisant dire, vous ne pouvez pas tourner à l'extérieur à quatre personnes. C'est défendu. Alors,
Par la police?
Ben, en fait, par la sécurité publique de Ville-Mont-Royal. La semaine passée, c'était dans un parc juste à côté, en face de chez Charles Tisser.
Oui, mais juste une seconde. Là, dans les médias, c'est comme une forme de service essentiel. Là,
ben
aussi,
voilà.
Là. C'est ça.
Exactement. Tu viens de tout dire. Et là, Radio-Canada, c'est plein. On demandait à la ville, à Ville-Mont-Royal. Ben nous, on constate qu'on est un service essentiel. Et puis, pouvez-vous nous laisser tourner, s'il vous plaît? C'est des présentations de découvertes qu'on va voir dimanche soir. Alors, finalement, ils se sont entendus et la ville leur donne la permission. Oui. Je trouve que, franchement,
puis,
là...
Puis juste pour situer les accros, là, c'est pas Radio-Canada qui se décrète service essentiel. Là, c'est dans la loi, là.
C'est ça.
Non seulement ça, mais il faut savoir aussi que, tu sais, ils font ça avec toutes les ils respectent les règles, là, parce que bon, tu sais, il y a des règles à respecter. Ils respectent les règles. Et en plus, on a demandé Découverte, c'est-à-dire que le magazine Découverte qu'on aime, qui nous a donné un spécial sur le coronavirus absolument exceptionnel, eh ben, il continue à tu sais, il va faire de nouvelles émissions parce qu'à ce temps ici, d'habitude, c'est pas des émissions originales, c'est-à-dire c'est pas des émissions faites ici, là, tout le temps. Alors, mais c'est intéressant, en tout cas, de savoir que, bon, les gens s'occupent des parcs, mais là, il y a des fois
c'est exagéré, là,
ça se peut bien des fois, mais des fois, qu'est-ce que tu veux?
OK, bon. je veux vous entendre sur Ghislain Tremblay, le comédien qui est décédé.
Oui, à 68 ans, c'est un comédien qu'on ne voyait plus depuis une bonne quinzaine d'années, je te dirais, mais qui a été très, très, très présent pendant longtemps à la télévision. Moi, je me souviens toute mon enfance, d'abord dans Les 100 tours de 100 tours, où il jouait le rôle de Pico. Alors ça, c'est tout à fait mon enfance. Pop Citrouille, bien sûr, toi aussi, Patrick, d'ailleurs.
Oui.
Et il y a eu probablement le rôle qui a été le plus marquant pour lui, ça a été dans Le Parc des Braves, où il jouait Pierre-Paul, qui est un ancien militaire, et il avait gagné un Gémeaux pour ça en 1986. Il a fait Cormoran, il a fait Montréal PQ. Donc, il a été très présent durant très longtemps, mais on n'avait plus de nouvelles depuis un bon bout de temps déjà.
Moi, sais-tu où j'ai connu Ghislain Tremblay? Parce qu'on l'a interviewé. Moi, je l'ai interviewé déjà, puis je sais, Richard, que tu l'as interviewé aussi.
Oui.
Moi, j'ai connu Ghislain Tremblay il y a longtemps. Ça va me rajeunir. À l'époque, il y avait la Ligue nationale d'improvisation. Ghislain Tremblay était un improvisateur
fou.
Redoutable. Okay? Et il y avait la Ligue nationale d'improvisation qui donnait des spectacles, mais à l'Université du Québec, dans une grande salle, à minuit. Alors, on arrivait là, puis on payait pour entrer, ça coûtait quasiment rien, et on avait une claque. Tu te rappelles, c'était l'époque des... Tu te rappelles pas, mais c'était une époque où on pouvait lancer des claques. C'est ça.
Ben
alors,
oui,
on pouvait lancer des claques sur la glace. Ben, sur la glace.
Il lançait littéralement des chou-claques sur l'air de jeu.
Exactement. Alors, et j'y allais à minuit, moi. Puis à minuit, là, il y avait les Rouges et il y avait Claude Laroche qui était, il y avait Robert Gravel. Écoute, il y avait plein de monde. Et il y avait Ghislain Tremblay, qui était tout jeune comédien. Mais ma foi, quand il embarquait sur la scène, là, et quand, c'était un, puis il était au Temple de la Renommée, d'ailleurs. Je pense qu'il était, il était reçu au Temple de la Renommée dans les années 2000.
Il était commentateur aussi à la soirée de l'impro, par la suite à Radio-Québec.
Oui, oui. Puis il a joué dans Les Invincibles. Bon. On l'avait vu dans Les Invincibles.
Il faisait le boss de la chope de poulet.
Oui, puis dans Destinée. Alors, il a quand même joué, ça fait pas... on entendait peu parler depuis quelques années, mais il avait quand même joué dans des séries. On l'avait vu dans quelques séries. Et c'était quelqu'un qui était assez sérieux dans la vie. En tout cas, de mon souvenir, le souvenir que j'en ai.
Est-ce qu'on sait pourquoi il est devenu plus reclus? On parle de maladie, mais...
Non, oui. Moi, je ne savais pas.
Okay. Ben, c'est ça, il a été malade. Là, qu'est-ce qu'il a eu exactement, je ne peux pas te dire, mais c'est une question de santé pour lesquelles il est.
On m'avait dit que c'était une question de santé, mais je n'ai jamais vraiment su la véritable raison. Enfin,
c'était pas quelqu'un les gens qui étaient très discrets autour beaucoup, de ça. Là. C'est ça, exactement. C'était quelqu'un de très discret.
Merci, les accros.
Ça fait plaisir.
On s'en parle demain et vous dire que, oui, à propos du décès de Ghislain Tremblay, Catherine Beauchamp va revenir sur cette disparition-là. En fin d'émission, on va parler avec la grande comédienne Sophie Fauché, 17h47.